Déambulation.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter les programmes RDIWA et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. J'ai le plaisir de vous présenter, dans le cadre de cette nouvelle déambulation, un reportage sur le festival Désert Numérique édition 2011 qui s'est tenu à Saint-Nazaire-le-Désert du 1er au 3 juillet dernier. En guise de reportage, vous allez en fait entendre une série de prises de son effectuées par Louis le dernier jour du festival, dimanche 3 juillet. Avec son micro, Louis est allé à la rencontre des artistes et de leurs performances, l'occasion de s'immerger une fois ou une nouvelle fois pour ceux qui ont pu participer au festival, au plus proche de cette nouvelle forme d'art contemporain qu'est l'art numérique. Débutons sans plus attendre cette déambulation avec la parole de Marika, une des organisatrices du festival Désert Numérique.
Marika, tu fais partie des organisateurs de Désert Numérique.
Oui.
Ça se termine bientôt, ça s'est bien passé ?
Ça s'est bien passé, ouais, super. Globalement, dans l'ensemble, j'ai l'impression que de plus en plus d'habitants du village sont là, présents, viennent voir. Et voilà, c'est une grande timidité de leur part, c'est difficile, il faut aller les chercher. Petit à petit, les liens se créent. Voilà.
Ouais. Parce que c'est un petit peu abstrait quand même, souvent.
Abstrait, non. Disons, c'est curieux. Par exemple, quelqu'un, Martine Meij, m'a dit tout à l'heure, en expliquant ce qu'elle avait, l'expérience qu'elle avait faite cet après-midi à son mari, elle se retourne vers moi en disant c'est curieux, mais c'est ça qui est formidable. Quoi.
Et au niveau du public, alors il y a eu des diwa qui sont venus.
Quelques-uns, toi,
par exemple. Oui, certes.
Il y a un diwa qui a exposé aussi.
D'accord.
Émile Sislar, hein, dans la chapelle. Et puis, il y a des gens de partout. Il y a aussi une fille, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui nous a suivi toute la semaine, qui vient de Die. Après, ça vient de près, de loin, jusqu'à Marseille, Lyon, Tourcoing, Bruxelles, Allemagne,
et puis
la Chine aussi, et même un Sénégalais qui
est le nom d'un chien.
De Dakar.
Et c'est une grosse organisation, alors ça repose sur un certain nombre de...
Ça repose sur, en gros, 6 épaules, dont 2 qui ont 70 ans. Donc c'est assez lourd, mais cette année c'était que du bonheur. Quoi. Donc on n'a pas du tout senti le... on sera un peu sur les rotules là, demain.
Et donc il y aura une ressucée l'année prochaine.
Sans doute, ouais.
Marika, je te remercie.
Je t'en prie, merci à toi.
Sylvain, tu viens de faire un concert dans l'église de Saint-Nazaire. Est-ce que tu pourras nous expliquer un petit peu le concept ?
C'est des concerts avec des hydrophones. Le concert faisait suite à un atelier où on a construit des hydrophones nous-mêmes. Qui consiste à avoir des micros qui puissent enregistrer sous l'eau. Et donc on a construit ça pendant le festival. On a fait des enregistrements dans la rivière, dans les différents points d'eau de la ville. Et donc le concert était un peu une transcription en live des possibilités offertes par ces microphones.
Alors dans l'église, c'était des sons collectés un petit peu partout ou c'était des sons que tu créais dans l'église ?
Donc les deux. On avait à la fois quelques récipients, des bols tibétains, des boîtes de conserve, une poubelle en métal. Qui nous permettait de faire des sons directement en live. Et on avait aussi sélectionné certains sons qu'on avait enregistrés qui nous paraissaient intéressants, qui étaient aussi rediffusés pendant le concert.
Alors il y a beaucoup de possibilités de faire du son avec de l'eau.
Oui, il y a suivant le type d'objets qu'on utilise, de récipients, donc la matière, que ce soit du verre, du plastique, du métal. On aura un son qui sera différent et aussi les objets perturbateurs qu'on peut introduire comme des cailloux, des petits cailloux, des gros cailloux, des boules aimantées ou certains objets qui vont venir créer un son auront une typologie sonore différente.
Est-ce que c'est musical ?
Je pense, ouais. Après, c'est sûr que c'est effectivement assez expérimental, en tout cas dans ce qu'on a pu faire. Mais je sais qu'il y a, je connais quelques artistes qui utilisent ce genre de technologie pour leurs concerts et qui sont évidemment musicales aussi. Là, on n'a pas eu le temps de faire une mise en scène vraiment propre parce que faute de temps, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à chercher. Dans ce domaine-là. Ouais.
Merci Sylvain.
De rien.
Je suis avec Adeline Schweitzer, qui va se présenter d'ailleurs.
Ouais, salut. Bah écoute, je suis plasticien, j'habite à Marseille et je suis venu à Désert Numérique sur une invitation de Marika Dermineur pour présenter le projet Areality. Donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans maintenant. Et qui consiste en une succession de balades que je fais avec les gens du coin et puis des petites formes de restitution, voilà.
Alors en quoi consiste ton expérience en fait, si je devais la synthétiser comme ça?
L'expérience que je propose, c'est un écartement du réel très temporaire via un dispositif immersif mobile. Donc le dispositif, concrètement, c'est quoi? C'est 2 organes artificiels, des yeux et des oreilles artificielles, qui vont se substituer à tes organes naturels un court instant, enfin exactement 20 minutes, c'est la durée de l'expérience.
Donc la personne se balade avec une caméra, elle ne voit rien, c'est ça?
La personne, en fait, d'un coup, se balade avec tout l'équipement nécessaire au traitement d'un flux stéréoscopique de caméra, c'est-à-dire qu'elle a, elle a 2 caméras qui lui remplacent chacun de ses yeux et 2 micros qui remplacent chacune de ses oreilles. Le parti pris de ça, c'était de fabriquer des filtres artificiels au départ qui créent le moins de déformations entre ce que tu aurais naturellement et ce que tu as d'un coup à travers le truchement des capteurs.
À cette étape-là, il n'y a pas encore de déformation de la réalité?
Non, c'est-à-dire, voilà, dans un premier temps, c'est une retransmission exacte, au plus juste, de ce que peuvent faire les capteurs et de ce que peuvent faire aussi les 2 dispositifs qui sont collés d'un coup à ton corps. C'est par la marche, en te déplaçant dans l'espace, que la machine générative qu'on a programmée, qui gère, en fait, qui assure la gestion de ces flux, va se mettre à les triturer, à les déformer, au gré d'une espèce de grammaire de programmation qui fait des propositions toujours nouvelles.
Mais ça, c'est après coup. Ça, la personne, elle marche avec ce dispositif bioculaire et bioauditif, et elle n'a pas de déformation de la réalité.
Si.
Ah, si, déjà. Voilà.
Et oui, c'est surtout, c'est là-dessus que ça repose. Moi, cette machine, si tu veux, elle remplit une fonction qui est contraire à ce qu'on attend d'une machine traditionnellement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour à t'améliorer physiquement ou te rendre plus performant ou te permettre. Elle est là, au contraire, pour te ralentir. Et donc, dans la balade que je propose, les événements psychédéliques, parce que très souvent cette machine va se mettre à polariser l'image, la zoomer, la rendre quasi interactif à la voix, au mouvement de la tête, enfin que sais-je encore. Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on ne veut aucune maîtrise. C'est-à-dire qu'on a un automate génératif, un jet de dés multiniveau qui compose avec ses possibles à lui. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette expérience. C'est une œuvre, c'est-à-dire c'est vraiment un objet qui remplit cette fonction, un spectacle audiovisuel interactif pour une personne. Si tu veux, si on doit le résumer très clairement, c'est ça.
Y a-t-il eu des expériences où les gens...
Malheureuses
Ouais, malheureuses, oui.
Non, il n'y a pas eu d'expérience malheureuse. Il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres, c'est certain. Des gens qui refusent une expérience qui peut avoir, par certains côtés, quelque chose de schizophrénique un peu. C'est-à-dire t'es dans ton corps, mais t'es pas dans ton corps. T'es dans tes yeux, mais t'es pas dans tes yeux.
Je suppose que tu choisis tes environnements, pas des environnements trop stressants peut-être aussi, non?
Non, enfin, il y a un protocole, comme je te le disais tout à l'heure, les balades durent 20 minutes. Le protocole, ça fait partie de ce protocole, mais à l'intérieur, il y a aussi la décision pour les gens de choisir un endroit qui leur est familier. Un endroit qui, enfin, quand je dis familier, un endroit qu'ils aiment, un endroit qu'ils ont l'habitude, un endroit qu'ils explorent fréquemment. Et l'introduction de la balade avec ce dispositif intervient comme un élément te permettant de redécouvrir du quotidien, de redécouvrir des choses que tu croyais maîtriser qui d'un coup t'échappent un peu, quoi.
Une fois que cette balade de 20 minutes a été réalisée, tu proposes une autre forme de restitution.
Dans un hamac ici.
Donc là, c'est moins interactif, ça c'est plutôt la personne reçoit ce qu'une autre personne a vécu.
Ça, je l'ai appelé le SimSteam, c'est simulation-stimulation. C'est un hommage à Gibson, qui est un écrivain bien connu de science-fiction cyberpunk des années 80, notamment. En fait, si tu veux, dans la reality, le 03, c'est-à-dire la machine qui sert à faire ses promenades, c'est une épuisette, comme un mec qui collectionnerait les papillons, si tu veux. Moi, je travaille dans un rapport à la collection, quoi. Et au-delà de l'expérience unipersonnelle, du spectacle unipersonnel que je propose aux gens qui participent, cette restitution du SimSteam, elle passe par plein de phases. Là, aujourd'hui, sous nos yeux, on a ce truc de restitution. D'un coup, oui, tu vas explorer une base de données. Enfin, tu l'explores pas, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas interactif. C'est-à-dire, toi, tu t'installes, tu chausses le système qui est le même que celui qu'utilisaient les gens dans l'action, et tu te retrouves immergé dans une tête qui n'est pas la tienne, dans des sens qui ne sont pas les tiens. On est là où on est, mais il suffit qu'on change le filtre, qu'on passe d'un filtre biologique à autre chose pour se rendre compte de la subjectivité du réel. Il y a toujours cette couche-là, mais en plus, il y a cette idée de voyage immobile. Tu voyages dans le temps, tu voyages dans l'espace, dans des consciences qui ont ressenti des choses.
Voilà, c'est des sensations de quelqu'un d'autre, quelque
ouais,
part.
Ouais, voilà. C'est de l'uploading sensoriel, quoi. Voilà, un peu.
Tu as dit que tu étais la version 3 de ton système, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup de programmation. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour inventer un dispositif comme le tien ?
De la patience, de la programmation informatique, donc, de l'électronique, de la logique et encore une fois de la patience. Moi, j'ai pas de formation par rapport à ça. C'est une formation empirique. Bon, certes, j'ai fait les beaux-arts et puis en plus, dans un département qui était encore à l'époque parmi les premiers à s'intéresser à la question de l'introduction de la technologie dans l'art. Du coup, par empirisme et sur le tas, t'apprends un tas de choses. Par ailleurs, moi, je parlais de Gibson à l'instant, voilà, c'est un truc depuis que je suis tout gosse, j'ai bon, des machines, je bricole des trucs, je fais des inventions, c'est ma méthode de communication. Voilà.
Est-ce que tu as l'impression d'être en phase avec ton époque
À vrai dire, les gens me regardent comme un extraterrestre. Enfin, quand tu te balades avec ce truc-là, tout le monde te regarde comme un extraterrestre. Tu peux être à Paris, intramuros ou à Saint-Nazaire-le-Désert, tu passes pour un barjot partout. Hein. Après, les gens qui ont essayé, ils comprennent immédiatement de quoi on cause, quoi. Après, je pense que c'est à l'époque de l'hypermédia, du média outrance, permanent, constant. Prendre du recul avec une machine qui est plus là, justement, on n'est pas là pour te vendre un truc, on n'est pas là pour te faire consommer une nouvelle techno, pour t'inventer un nouveau besoin. On est là pour te faire prendre du recul justement à cette techno-là. Enfin moi, je travaille comme ça. Donc après, je ne sais pas du tout si je suis en phase avec mon époque, mais en tout cas, moi, je suis en phase avec moi-même, c'est déjà pas mal.
Certes. Est-ce que c'est compréhensible, quoi, je veux dire, c'est surtout ça.
Ouais, mais c'est universel en fait le message, parce que comme il me semble que c'est quand même un questionnement fondamental. C'est un questionnement déjà de l'enfance, tu vois. Que tu retrouves chez tout le monde, entre les poupées russes, c'est-à-dire, tu sais, quand tu te poses la question de savoir, oui, t'es dans un corps, lui-même dans un corps, lui-même dans un corps, et la question de quand t'es dans la rue et puis que tu vois les gens autour de toi, tu dis, mais quand ils passent la porte, est-ce que c'est vrai quand ils passent la porte, c'est peut-être un décor en carton, derrière, il n'y a que dalle, et puis voilà, c'est terminé. Donc, de ce point de vue, c'est universel. Après, cette couche technologique qui peut être rebutante pour plein de gens, ça c'est. Moi, j'essaie de la déjouer justement par ces images très fortes. Je pense que c'est une interview radiophonique, donc, mais le truc de ce village à Saint-Nazaire avec ces gens allongés dans ce hamac, équipés comme des cyborgs ou apparentés, qui planent en voyageant sur les consciences d'autres personnes. Ça a de l'impact, quoi, et ça a de l'impact pour tout le monde, parce que ça vient d'une littérature populaire, ça vient d'une culture populaire qui est la science-fiction, et moi, c'est mon alphabet, quoi.
D'accord, et quels sont tes projets futurs ? C'est toujours en explorant cette voie, en complexifiant ta machine, en développant l'interactivité avec peut-être des senseurs tactiles éventuellement, non ?
Non, on arrête tout, là. Non, c'est pas ça, c'est que justement, tu disais tout à l'heure, il y a deux sens. Deux sens, c'est bien suffisant pour travailler. Il y a plein de choses qui se déduisent sans avoir besoin de remettre de la technologie dedans, de complexifier. Ce projet-là, il en est à un endroit où en prédiffusion, voilà. Donc on est en train de finir le dispositif artistique et tout le protocole qui va autour. Et là, on expose à Dresden en novembre. S'en suivra une expo à Poitiers, je l'espère. Voilà, il y a des choses qui se préparent. Et parallèlement à ça, moi, à Marseille, à la rentrée en octobre, je présente le 11, 12, 13 octobre sur les escaliers de la gare Saint-Charles la première version d'un spectacle à base de skateboard augmenté et de prise de pouvoir, régie, vidéo, lumière et son, voilà, un spectacle en fait audiovisuel pour une plus large audience, je l'espère. Voilà.
Oui, c'est toujours le problème de la diffusion, comme ton appareil, tu en as un, il y a une personne qui peut passer... Et donc ça peut pas être, sait-on jamais, avec beaucoup de moyens, des masses entières de personnes connectées.
Le SimSteam est là pour remplir cette fonction. Je crois que le dispositif d'Art Reality, le 03, il doit rester. C'est bizarre de l'appeler un prototype, parce qu'un prototype, ça appelle à ce qui est une industrialisation et qui est machin. De la même manière, c'est bizarre de dire réalité virtuelle ou intelligence artificielle. Enfin bon, il y a plein de trucs bizarres comme ça. Ceci étant dit, le prototype restera un prototype, il n'y en aura jamais qu'un. C'est peut-être bizarre, mais moi j'aime bien conserver cet esprit, la rareté aussi. C'est-à-dire, tu vois, l'objet il est posé là, tu te dis j'aurais pu y participer, là j'ai un autre moyen d'accès au projet qui est celui-là, et je trouve que c'est un ressort aussi intéressant de travailler la question de la non-reproductibilité de la technologie aussi, et le fait que c'est pas une console de jeu non plus, c'est autre chose.
Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de prévenir les gens de ce qui les attend ?
Bah, y a eu un moment, au départ, il y a plein de gens qui m'ont posé la question dans Art Reality, avant même le SimSteam, de me dire « Mais pourquoi tu théâtralises pas le truc ? Pourquoi il n'y a pas des gars en blouse blanche qui te suivent partout, qui te palpent, qui te triturent le crâne avant de te foutre là-dedans ?» Je pense que justement, si on veut laisser la liberté aux gens de faire fonctionner leur imaginaire et de construire leur propre... impression du truc, le moins t'en dis, le mieux c'est, quoi. C'est comme des gens qui peuvent ressortir du dispositif en me demandant si j'utilise des caméras thermographiques. Je pense que c'est complètement anecdotique, mais moi j'ai tendance à avoir envie de leur. Et je leur réponds le plus souvent oui, même si c'est pas le cas. Parce que si tel est. Enfin, tu vois, si tu t'es construit ça, pourquoi.
Merci Adelin et
merci à toi.
Bonne continuation.
Ouais.
À plus.
Salut.
Sans plus de transition et en guise de petite pause musicale, voici pour vous un extrait du concert que Thierry Cauduis a présenté au Festival des Arts Numériques 2011. Prise de son réalisée dans l'église de Saint-Nazaire-le-Désert, un concert intitulé « Flux ».
Olivier et Camille, vous faites partie du collectif MU. Vous avez proposé un espèce de dispositif extraterrestriel. Pour nos auditeurs qui ne sont pas des spécialistes, vous pouvez peut-être un peu l'expliquer.
Alors en gros, ce dispositif s'appelle Sound Delta. Le principe, c'est du son géolocalisé et spatialisé, donc dans un environnement réel. Donc en gros, ce qui se passe, c'est en tant que spectateur, on vous file un casque, un mini-ordinateur. Nous, on a fait une composition sonore, c'est-à-dire qu'on a positionné des sources sonores, en l'occurrence, c'est des samples en gros. On a positionné donc ces samples un peu partout dans le village de Saint-Nazaire-le-Désert, genre sur la chapelle, sur l'église, sur plein d'éléments du village. Et donc en gros, si toi en tant que spectateur tu es à gauche d'une source, tu vas entendre à ta droite, et puis tu vas tourner sur toi-même, la source va tourner autour de toi, etc.
Si on devait synthétiser l'intérêt de ce dispositif,
Ce qui est intéressant en fait, c'est que ça permet de redécouvrir un peu l'espace en fait dans lequel on propose en fait la composition. Par exemple, Saint-Nazaire-le-Désert, c'est un village de montagne, donc où s'est passé plusieurs événements sonores artistiques. Nous, on a récupéré donc des sources fournies par ces artistes et on les a repositionnées donc dans le village à la demande. Par exemple, des élèves de l'école, des jeunes du village, c'est ça qui ont en fait. On fait par exemple un bruitage avec des cailloux qu'ils ont demandé de positionner sur tel pont du village. Voilà. Et quand quand les villageois par exemple ont testé le dispositif, ils ont vu un espace de vie en fait transformé par la musique qui leur a été proposée en fait. Plus ou moins étrange, plus ou moins...
En quelque sorte, c'est une sorte de bande-son, enfin imaginée par le compositeur forcément, mais une sorte de bande-son subjective du lieu qu'on investit en fait. Donc une manière de redécouvrir le lieu, surtout en l'occurrence un village comme ça où les gens y vivent, ils le connaissent très bien. Donc c'est une relecture de leur lieu de vie en fait, en quelque sorte.
D'accord, alors c'est compliqué, ça nécessite un GPS je crois pour justement faire le lien entre l'ordinateur et le casque.
Alors voilà, en fait, donc t'es traqué avec un GPS et une boussole, donc le GPS pour connaître ta position et la boussole pour savoir l'orientation de ta tête. Donc en fait la boussole sert uniquement pour le son spatialisé en fait. Vraiment, si tu regardes dans une direction, tu vas entendre les sons à gauche ou à droite en fonction de là où tu es par rapport au son. Puis quand tu tournes, ça tourne autour de toi.
C'est une prestation que vous proposez de temps en temps à droite à gauche ou c'est un clair?
En fait, sous cette forme-là, on la présente à droite à gauche dans pas mal de festivals. On a présenté ça à Scopitone à Nantes, à Ozosphère à Strasbourg, à Futur en scène là, à Paris il y a une ou deux semaines. Donc voilà, on fait également des applications iPhone qui sont basées sur le même principe. Alors le son est moins bon parce que c'est quand même un téléphone. On a fait une appli qui s'appelle Wild, qu'on a présentée pour une expo qui s'appelle Naturel Brut, qu'on a fait donc au But de Chaumont à Paris il y a un an. Donc c'était une expo organisée par WWF. En l'occurrence, c'était sur les oiseaux, les espèces d'oiseaux qu'il y avait dans le parc des Buttes Chaumont. Donc il y avait des sons d'oiseaux avec la petite fiche explicative de chaque oiseau, plus de la musique par-dessous, enfin voilà.
Ce qui implique que vous devez venir avant pour collecter les sons, non? Vous demandez à des volontaires.
C'est ça, une prise en compte de l'espace importante, ouais, bien sûr. Après, du coup, pour Wild, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a travaillé donc avec un centre d'ornithologie en fait, qui donc on a pu nous guider concernant les espèces qu'il y avait dans le parc. Enfin, c'est vraiment un travail sur place aussi au préalable, en fait.
On va faire un repérage à la fois GPS pour le côté technique, voir si ça marche bien ou pas, parce que ça va influencer forcément la composition. Et un GPS, juste visuel, genre quel endroit est intéressant, où est-ce qu'on va placer telle ou telle source. Enfin, faut bien connaître l'espace avant de pouvoir positionner ces sons.
Mais les sons en question, c'est des gens qui vous les fournissent ou...
Ça dépend du projet. Sur tel projet, on va bosser avec tel artiste, sur tel autre, avec tel autre. Enfin, ça dépend vraiment du projet.
Des fois, c'est même l'artiste qui amène aussi l'envie de faire une composition à tel endroit. Et c'est vrai que du coup, au sein du collectif MU, il y a aussi des compositeurs qui travaillent beaucoup plus régulièrement sur les projets en fait, et dont on s'est servi notamment pour le projet à Saint-Nazaire-le-Désert en fait.
Olivier, Camille, merci.
Mais merci à toi.
Merci beaucoup.
Emmanuel, tu as conçu ce dispositif composé d'un ressort tendu entre plusieurs arbres et qui est connecté avec une espèce de système de haut-parleur.
J'appelle ça aussi une expérience de physique amusante. On n'est pas encore au stade de la musique. On est au stade, on a déroulé un rouleau de fil de fer, on écoute les ondes qui se baladent dans 60 mètres d'acier. Après, si un compositeur un jour veut utiliser cet instrument, il faudra apprendre les techniques de jeu. Pour l'instant, c'est assez basique.
Par exemple, si tu mettais un certain nombre de fils de fer, mais de plus ou moins grande intensité, enfin de longueur, non, peut-être, ça pourrait varier.
On pourrait se fabriquer une sorte d'instrument, néanmoins pas très versatile. J'insiste sur le fait qu'il est connecté de manière très simple. On met juste des micros à chaque extrémité et tout de suite un haut-parleur. Il n'y a pas de gadget électronique, il n'y a pas d'effet ni quoi que ce soit. C'est le bruit pur du son dans le métal qu'on entend. La propagation du son dans un rouleau de fil de fer. C'est d'ailleurs un son qu'on entend dans les caténaires, dans les rails. À chaque fois qu'on a une grande extension linéaire de métal, on a ce type de son. C'est un phénomène... Voilà.
Et alors pourquoi as-tu imaginé ce dispositif ? En quoi cela t'intéressait-il ?
Donc c'est un ingrédient dans un atelier qui s'appelle Ondes Harmoniques Bifurcation Chaos. Un atelier où on étudie les ondes, on parle des ondes, pour ceux qui sont curieux, la théorie mathématique des ondes, des harmoniques. Et puis aussi des dispositifs qui permettent de rendre ça un peu plus chaotique, disons, et peut-être aussi plus musical. En faisant intervenir des notions de feedback, de Larsen, de rétroaction, etc. Donc on a bricolé des systèmes physiques pour rendre les choses un peu plus complexes. Et par exemple cet après-midi, pendant que les gens jouaient à la pétanque ici, on a diffusé à travers ce ressort les ondes cérébrales d'une jeune femme qui était à Paris, qui par internet nous a envoyé son électroencéphalogramme. Donc c'est des ondes très très graves, qu'on n'entend pas directement par nos oreilles et qui mettait en branle ce ressort et puis les harmoniques supérieures ou les résultats de cette vibration ensuite nous étaient retranscrits par les haut-parleurs là. Donc c'était relativement discret, je pense que ça n'a pas dérangé les voisins, mais c'était assez rigolo de voir que les gens jouaient aux boules sous les ondes cérébrales.
Comment définirais-tu tes compétences ?
Moi, je suis d'abord chercheur en mathématiques.
En mathématiques.
Et ensuite, intéressé par le phénomène vibratoire, voilà, ses applications artistiques. Et puis aussi par le fait que certainement, beaucoup d'installations scientifiques, d'expériences scientifiques, peuvent être présentées et exposées ou, comme des installations au sens artistique du terme.
Avec une volonté de vulgarisation, de transmettre un savoir, non peut-être ?
Plutôt, peut-être pas directement transmettre le savoir, mais transmettre une émotion, parce que ça existe aussi dans ce monde scientifique. Mmh. Et ensuite, peut-être intéresser les gens. C'est un travail relativement solitaire, apprendre la science, un peu comme apprendre le piano, il faut faire des gammes, etc. C'est pas dans un atelier d'un après-midi qu'on apprend vraiment quelque chose de profond, mais on peut avoir une passion qui démarre ou quelque chose comme ça.
Tu avais d'autres installations, je crois qu'avec de la maïzena, c'est un truc qu'on voit sur internet là.
C'est une autre expérience classique de prof de physique. L'atelier avait un but. Dans un haut-parleur, on met une sorte de bouillie à base de maïzena. Il se trouve que les propriétés physico-chimiques de cette bouillie font que ça interagit avec les vibrations sonores de telle manière que ça prend des formes bizarres, comme si c'était vivant, etc. C'est très, très impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a de très belles démonstrations sur Internet. Ça reste tout à fait chaotique. On en parlait du chaos tout à l'heure, là on est en plein dedans. C'est très très difficile et imprévisible. Et on a essayé de voir comment essayer de contrôler ces formes, et quel type d'ondes on pouvait envoyer pour avoir tel ou tel résultat, etc. Donc, là aussi, on ne peut pas dire que c'était très concluant, mais on a au moins essayé.
Oui, en fait, il n'y a pas de finalité dans ce que tu fais. En fait, quelque part, c'est juste...
Il y a un truc... très important qui relie les scientifiques et les artistes, c'est le fait que lorsqu'on sait où on va, on trouve rarement quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est par erreur et sans trop savoir où on va qu'on trouve les vraies découvertes profondes.
Il y a même un terme pour ça, mais je l'ai oublié.
Serendipity.
Voilà, serendipity. Ah,
voilà.
Ben, je te remercie, Emmanuel. Monique, vous êtes commerçante à Saint-Nazaire, donc vous avez participé un petit peu à ce festival des arts numériques.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé en fait ?
Des choses déroutantes, des choses sympathiques, une ambiance bon enfant.
Il y a eu beaucoup de monde qui est passé par la ville ?
Quantitativement, c'est difficile à dire, mais enfin, j'ai vu beaucoup de mouvements, c'est sûr.
Vous êtes sensible aux arts numériques ?
Oui, j'aime bien ça.
D'accord.
Enfin, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le dialogue des pixels, j'y avais participé l'année dernière. J'ai testé le casque qu'on met sur la tête, on se promène.
Alors qu'est-ce que ça fait ?
Ben, on doit retrouver à certains endroits du village des sons qui avaient été qui sont liés au festival. Il y avait eu un concert des enfants dans l'église, il y avait eu enfin, plein de choses, c'était pas mal. Ouais. Il y avait aussi un casque que j'ai testé où ça mesurait l'activité cérébrale. Bon, ça va, j'ai une activité cérébrale. C'était pas trop plat. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu ? Ben, j'ai vu les fontaines rhizomatiques, là. Non, c'est un jardin hydroponique.
D'accord.
Bien qu'on ait déjà ça dans le Diwa. J'ai vu des gens qui fabriquaient une éolienne, j'ai vu sur la place faire l'électricité, mais ça, c'est pas nouveau, hein, avec la force de l'eau.
Alors, vous avez quand même utilisé ce terme déroutant. Vous avez été dérouté par
oui,
certains côtés.
Oui, parce que il y avait des ateliers. Bon, c'est vrai qu'il est déroutant dans le sens que...
C'est technicien, c'est...
Oui, c'est technique, oui, certains trucs, oui, voilà, c'est sûr que...
Tout le monde ne peut pas se mettre à...
Oui, peut-être pas, oui, c'est possible. Bon, maintenant, il faut être ouvert, hein, il faut y aller et puis se faire expliquer.
Merci Monique.
C'est sur le témoignage de Monique que nous clôturons cette déambulation en rétrospective du Festival des Arts Numériques 2011. Remercions Marika et les organisateurs du festival pour leur invitation. Merci également à tous les participants et à ceux qui ont accepté de répondre au micro. Sylvain, Adolin, Olivier et Camille, Emmanuel et enfin Monique. Merci également à Thierry Cauduis pour la musique. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon vent à l'écoute des programmes RDIWA. Salut !